Bienvenue au Polysécur, épisode technique. Je suis accompagné de Yassir. Est-ce que ça va bien?
Ça va très bien, et toi, Nicolas?
Très bien aussi. Aujourd'hui, on va parler d'un article, un blog que vous avez publié, malheureusement déjà quelques temps, parce qu'on n'a pas eu le temps de se parler depuis. Le temps et la complication faisant. Vous avez publié un article sur un VOC, c'est-à-dire le Vulnerability Operation Center, c'est-à-dire de comment on organise la sécurité offensive dans une unité structurée comme le SOC ou le NOC ont déjà été pour justement structurer des organisations opérationnelles autour d'un ensemble, puisque maintenant, il est de plus en plus courant dans les entreprises d'avoir un volet offensif beaucoup plus présent, justement pour être prêt à se défendre correctement. Donc, je te laisse amorcer sur le dit article de blog que vous avez publié.
Exact. Écoute, nous la réflexion, elle est venue parce que ça fait pas mal d'années qu'on analyse un peu ce qui se passe sur les marchés, qu'on discute aussi avec les entreprises, les organisations. Et en fait, on s'est rendu compte que cette recherche de Operation Center, d'une certaine manière, c'est-à-dire ces tours de contrôle qui permettent de regrouper par, on va dire, par des familles d'approches cohérentes, la manière avec laquelle on va superviser des opérations, il n'y avait pas de raison, a priori, de ne pas l'appliquer au côté offensif de la sécurité. Et donc, typiquement, c'est vrai que les gens connaissent, par exemple, le SOC, où on va centraliser tout ce qui va être défensif, hein, toutes les remontées potentielles d'alerte, le suivi, etc., avec toujours un triptyque, la technologie, les ressources et quelque part les process. Et on s'est dit qu'on peut appliquer ça de l'autre côté offensif, puisque au quotidien, en fait, on discute avec des clients qui font du red teaming, font du pen test, font du bug bounty, font des audits. Et toutes ces opérations-là, ils les font avec des acteurs différents, des partenaires, des ressources en interne, des hackers éthiques, avec des processus des fois différents, avec des formats différents. Les rapports, par exemple, qui sont envoyés, des fois, ils sont dans un format texte, dans un format slide, dans un format document, etc. etc. Et donc, il y a un vrai enjeu en termes de gain de temps, en termes de rationalisation et d'objectivation de ce qui est fait sur ces typologies de missiles pour se dire, est-ce qu'on ne peut pas centraliser ça quelque part? Donc, c'est comme ça qu'on est venu avec cette idée de VOC, Vulnerability Operation Center, pour dire... on souhaite pousser des plateformes qui vont permettre à nos clients de superviser tout ça. Et donc, on a testé le discours, comme tu peux l'imaginer, hein, parce qu'on s'est dit, des fois, on peut avoir des noms qui claquent, mais la réalité, c'est qu'il n'existe rien derrière. Et on veut quand même rester un peu raccroché à la réalité. Et ça a fait sens. Et depuis qu'on a démarré ce concept, par exemple, nous, sur Yogosha, on a trois grandes familles de services que les clients peuvent activer. Ou le bug bounty, le VDP et le pentest as a service, et ben en fait on s'est rendu compte que au moins 30% de nos clients utilisent au moins deux des services quoi depuis le démarrage. Là. Donc il y a déjà et de manière différente. Hein. Et puis aujourd'hui on a vraiment une volonté de plus en plus de gens qui permettent de, enfin qui souhaitent en tout cas s'assurer que toutes ces opérations-là vont rentrer dans le même moule pour que typiquement, quand ils vont prendre une décision, ils la prennent avec le plus d'angles d'attaque possible. Je m'explique, je donne un truc anecdotique. Si un test d'intrusion interne, un test d'intrusion avec un partenaire et un bug bounty, les trois convergent sur une vulnérabilité quelque part sur un asset, c'est qu'il y a un problème avec l'entité qui gère l'asset, quoi. C'est-à-dire que ça ne devrait pas se produire. On devrait voir ça comme des lames de rasoir. Et en fait, c'est le genre de choses qu'on ne peut pas voir forcément quand ces opérations-là sont distinctes, c'est-à-dire qu'elles sont gérées par des réunions, par des emails. Mais quand on rentre ça dans un tour de contrôle avec un dashboard unifié, avec des éléments de comparaison, en fait, on réduit ce genre de risque. Et ce genre de risque, qu'est-ce qu'il permet de faire? Il permet de gagner du temps. Du temps, c'est de l'argent, encore plus quand il s'agit de sécuriser des failles. Et il permet surtout, et je pense que ça, c'est le deuxième plus grand jeu, de réduire le stress des équipes opérationnelles. Et ça, pour moi, c'est un des indicateurs importants Et c'est un des enjeux des équipes de sécurité aujourd'hui, le plus important, c'est qu'il y a une charge mentale auquel ils font face, qui est extrêmement élevée. Et enfin, il y a plein de ressources qu'on pourrait partager sur des études qui convergent sur le fait que toutes les équipes sécurité aujourd'hui, quel que soit le secteur, quel que soit le monde et tout, toutes les équipes démontrent ou déclarent des niveaux de stress qui sont de l'échelle de 8 sur 10 et plus. 8 sur 10, c'est traumatique. C'est quelqu'un qui dit de manière régulière, je ressens objectivement ou subjectivement, hein, je ressens un stress de 8 sur 10 au quotidien dans mon travail. C'est quelqu'un qui va finir avec une dépression ou quelqu'un qui va faire une grosse erreur, quelqu'un qui va démissionner. Je veux dire, il n'y a pas 36 000 manières de le voir. Et ça fait partie aujourd'hui des enjeux et c'est pour ça que nous, on pousse vers ça en disant comment on peut d'un côté faire gagner du temps pour de la prise de décision en unifiant un peu les formalismes. Deuxièmement, réduire la charge de stress parce que une personne qui se bat contre des moulins à vent, et il y a beaucoup de RSSI qui vous dit ça, hein, j'ai abandonné parce qu'on trouve, mais personne ne veut corriger. Vous voyez, c'est, voilà. Ou en fait, bah, ça, on l'a vu ici, mais on l'a pas vu par une autre opération. Ça n'est plus possible. En 2022, on ne peut plus accepter ce genre de choses. En tout cas, on ne peut plus le laisser comme des
ouais, pratiques. On peut pas le laisser sans structure. C'est essentiellement ça. Puis c'est ça qui est, parce que, tu sais, il y a eu un virage depuis plusieurs années. On va parler de red teaming. On est très content de se parler de ces éléments-là. Mais c'est encore dans un contexte où on parle de hunting aussi. On parle de contexte de cette nature-là, mais dans un contexte où les gens partent, mais comme des chasseurs et non comme des éléments structurés. Fait qu'on s'en va pas comme de façon, fait qu'on s'en va un peu artisanal de notre cache, puis on va faire du hunting. Entre là, le fait d'amener le VOC comme étant une notion, ben là, on ne cherche plus de façon artisanale, mais on vraiment structure les éléments justement pour être prévisible. Et puis c'est ça que les gens, peut-être en cyber, ont un peu plus de difficultés. C'est ça que l'on vécu. Les gens affaires ou métiers préfèrent des éléments structurés et prévisibles qu'un rapport aléatoire qui nous arrive comme ça de temps à autre et qui n'est pas bien appuyé. Puis d'ailleurs, Microsoft l'a reconnu il y a beaucoup d'années où, ouais, quand ils ont mis le fameux Patch Thursday, c'est arrivé le moment, ils ont structuré de façon que ça soit prévisible pour que les organisations puissent s'amener comme ça. À ce moment-ci, puis on est encore dans un univers où les vulnérabilités sont découvertes de façon aléatoire, autant au niveau des produits commerciaux qu'on acquiert, autant de nos propres systèmes qu'on développe à l'interne, c'est aléatoire, puis c'est mal reçu, puis justement, c'est pas un facteur, pas le seul, qui fait que les RSI sont un peu laissés à eux-mêmes à ces éléments-là, parce que les gens métiers ne les prennent pas autant au sérieux, là.
Ouais. Mais parce qu'en fait, il y a pour moi un enjeu de transformation de ces approches, hein, comme tu le dis, le red teaming, le pen testing, etc., qui dans les faits, dans la pratique, peuvent être artisanales, hands-on, voilà, ça c'est normal. Mais le vrai enjeu, c'est qu'il faut capter tout ça et il faut le transformer en connaissances formelles pour les équipes, pour qu'elle puisse après s'améliorer dans le temps. Et en fait, ce passage-là de la pratique vers comment d'un exercice de red teaming, je vais améliorer ma connaissance de ma société, de mes équipes de sécurité pour en faire quelque chose que je peux reproduire, que je peux traquer, que je peux suivre. Ben en fait, c'est là où il y a un vrai enjeu et c'est de là devient ce côté prévisible formaliste. C'est-à-dire, il ne faut pas non plus se dire je vais prévoir ce que va faire le red teaming. Mais je vais prévoir l'output pour pouvoir le digérer et pour pouvoir en faire un apprentissage. C'est comme quand vous dites, vous voulez apprendre les mathématiques à un enfant. Les mathématiques, c'est extrêmement large. Néanmoins, il y a de la didactique, il y a de la pédagogie, il y a un formalisme à respecter pour que petit à petit, on ingurgite ça de telle façon à ce que ça modifie au fur et à mesure mes connaissances, moi-même, du monde qui m'entoure. Et donc, c'est là où il y a un vrai enjeu sur, d'un côté, amener du process, parce que toutes ces opérations-là, si on veut les voir un peu de manière méta, elles se résument toutes à une ressource donnée, un individu, une équipe, donc une ressource, c'est une personne ou une équipe, qui va, dans un laps de temps donné, trouver des failles et les documenter. Tout. La contrainte, les différences, c'est est-ce que le temps il est court, est-ce qu'il est lent, est-ce que c'est un temps déclaré, pas déclaré, mais dans tout le reste, ça s'arrête à ça. une équipe, une ressource qui va trouver des failles sous contrainte précise. Et donc ça, il faut le sortir, il faut être capable de le remonter, de le traquer, et pour pouvoir dire derrière où est-ce que je dois mettre mon énergie, où est-ce que je dois corriger vite, où est-ce qu'il n'y a pas d'enjeu, quelles sont les personnes les plus pertinentes et sur quelles thématiques elles sont les plus pertinentes. Parce qu'il y a aussi un sujet d'affectation, c'est-à-dire que si un petit peu vous êtes en mode chaotique quand vous testez et que vous mettez des personnes qui sont très très bonnes sur le réseau pour tester des applications mobiles, vous n'allez pas forcément avoir de super résultats. Donc la capacité à se dire tel individu, tel pentester, tel red teamer, tel voilà, il est très très bon sur ce sujet-là, et de pouvoir pour le coup classer tous vos red teamers, tous vos pentesters, etc. avec des compétences spécifiques clés, bah il y a un vrai enjeu là-dedans quoi. Et c'est là où ce genre d'approche intégrée, homogène, avec des tours de contrôle peut prendre tout son sens quoi.
Ouais, bien un bénéfice de concentrer la connaissance, la compétence justement de ces éléments, parce que c'est pas les mêmes compétences qu'on va retrouver du côté offensif qu'on va retrouver du côté défensif. C'est un peu à mon sens l'erreur qu'on les SOC actuels font, c'est qu'ils mélangent les deux côtés. Là, on parle de purple team puis on veut tout faire ça ensemble, mais la réalité c'est que c'est des compétences fondamentales qui sont différentes, puis c'est des gens qui ont des approches qui sont différentes également. Fait qu'on peut pas demander à quelqu'un qui est typiquement offensif de faire du défensif et vice-versa. Puis ça, même si on fait l'effort de le faire, ces gens-là, un, vont soit être malheureux parce que les autres, c'est pas dans leur sphère, sont pas là dans leur vie ou sont pas là dans leurs choses. Et ils vont être moins performants également. Fait que là, on est capable de vraiment restructurer les gens avec les compétences. Puis dans le fond, dans des grandes organisations, on est capable d'avoir des équipes distinctes et dédiées à ce genre de choses-là, et d'avoir la tour de contrôle qui met l'arrimage entre les deux, qui permet justement la coordination de ces éléments-là. Mais il reste que fondamentalement, c'est des approches qui sont distinctes et qu'on ne doit pas mélanger non plus parce qu'on n'aura pas le bénéfice. Et on va épuiser les gens parce qu'on va leur demander des choses. Moi, j'ai vu des socs où ils font autant l'offensif-défensif, puis les gens sont à bout de souffle parce que c'est impossible de faire les deux univers en même temps et de façon concurrente avec un nombre très limité de ressources. Fait que c'est juste ça. Et c'est là où c'est très intéressant parce que vous amenez, Yogosha amène une brique très importante, vous amenez la brique offensive qui s'insère dans cet écosystème-là dans lequel on est capable de rehausser la maturité offensive de l'organisation.
Non, mais moi, je suis tout à fait d'accord sur le fait de dire, tu as évoqué le Purple Team à juste titre. Je pense que, par exemple, c'est un exercice, par exemple, dans le cadre d'un entraînement ou d'une simulation qui a tout son sens. On peut le faire, voilà, pour s'entraîner. Mais c'est vrai qu'au quotidien, quand il va y avoir une gouvernance qui va s'imposer avec une responsabilisation des gens sur qui doit prendre quelle action pour corriger ou pour trouver une faille ou, je pense qu'il faut qu'il y ait des scissions beaucoup plus claires, beaucoup plus limpide. Et c'est vrai que, et on retournera toujours au même sujet, et tu l'as très bien souligné, c'est vrai que des fois, on le fait aussi par facilité parce qu'on n'a pas assez de ressources. Et donc, on dit à la personne, ouais, mais tu vas faire du purple, comme ça, tu vas attaquer et défendre en même temps. Sauf que c'est de la schizophrénie, et le temps qu'on va passer à attaquer, on ne l'aura pas utilisé pour mieux défendre, et le temps qu'on aura passé à défendre, on n'aura pas utilisé pour aller encore plus dans l'attaque. Pareil, donc je pense que c'est là où les sujets opérationnels deviennent très critiques et très stressants parce qu'on arrive à une limite qui est la limite des bandes passantes des uns et des autres. Il faut être capable de les superviser. Et donc nous, typiquement, tu vois, par exemple, un des sujets qui nous semblait clé, c'était la disponibilité des individus. C'est-à-dire que sur la plateforme, on regarde qui est disponible et qui ne l'est pas. Ça peut paraître bête quand on le dit comme ça. Mais quand c'est formel, formalisé quelque part, ça n'est pas la même chose que quand vous envoyez un Slack ou un mail à quelqu'un pour dire hey, j'ai besoin de toi, est-ce que tu pourrais m'aider? Parce que il était déjà indisponible, mais vous l'avez déjà perturbé dans sa disposition en envoyant le mail. Il a peut-être déjà décroché, et par gentillesse ou par autorité, il va peut-être vous dire ok, d'accord, ben je vais voir ce que je veux faire. Mais si vous avez déjà des pastilles qui vous disent bah lui il est pas disponible, mais qui vous oriente vers une personne qui est disponible, peut-être que vous allez aiguiller l'énergie très rapidement en disant « bon, ça ne sert à rien que Jean-Baptiste, il est déjà pris, je vais appeler Michel, quoi. Hein, je caricature un peu et je vais le pinguer. » Donc, il y a des choses comme ça qui relèvent de juste la formalisation de la disponibilité des ressources qui aujourd'hui n'est pas faite parce qu'il n'y a aucun outil central qui permet de dire sur 200 pentesters avec qui je travaille, avec mes partenaires et moi, qui est disponible à l'instant T et qui ne l'est pas. Voilà.
Oui, puis c'est une chose, puis justement, la plateforme est intéressante, puis là, la vôtre, comme les autres aussi, justement, de s'inscrire dans ce regard-là plus grand où on est capable d'avoir des ressources à la demande, mais des ressources disponibles et reposées à la demande et retirer la pression sur ses employés, justement, qu'on est capable d'aller, la fameuse élasticité du cloud, mais l'élasticité au niveau humain, elle se répercute par des plateformes comme celle de YogaShop, par exemple, et les autres aussi. C'est sûr que je parle avec toi, c'est que je favorise la tienne, mais ouais. Il reste que ces plateformes-là permettent justement cette élasticité-là de capacité des organisations. Puis dans un contexte en plus où il y a de moins en moins de gens disponibles sur le marché, ou de plus en plus difficile à recruter des gens compétents qu'on a de besoin, puis qu'on a ça. Puis tu sais, en même temps, il faut aussi en recruter les gens qui débutent. Puis là, c'est là l'autre aussi, la dissonance. C'est qu'on veut tous les experts, mais on faut en même temps laisser la chance aux non-experts, ceux qui débutent, de pouvoir monter en compétences. Donc, on est dans un problème. Fait que, donc, oui, on faut embaucher les deux, mais en même temps, on est capable de suppléer l'élément de compétence quand on n'est pas capable de l'embaucher avec des plateformes. Puis c'est ça l'élasticité, c'est ça le crowdsourcing, c'est ça d'aller chercher plus loin. Là.
Exactement. C'est exactement ça l'idée. Et c'est vrai que tous les problèmes que tu décris d'accès aux ressources, c'est des problèmes systémiques, c'est-à-dire que toutes les études qui existent en large, en travers, sans balancer de chiffres, elles démontrent que les pénuries sur des profils cybersécurité sont des pénuries, ce que j'appelle moi des pénuries structurelles. C'est-à-dire que nos sociétés, par essence, l'éducation, les systèmes d'éducation, les écoles, les systèmes de formation n'ont pas été pensés pour produire assez de profils qui ont ces casquettes-là. Donc maintenant, on commence à le faire. On commence à voir apparaître des initiatives, des masters spécialisés en fin de parcours, ou voire même des parcours cyber. Et ça va donner des résultats à un horizon donné. Le problème, c'est que, allez, on va dire, ça va donner des résultats dans 5 ans, par exemple. D'accord? Sauf que dans 5 ans, les tendances de fond du marché, elles auront changé. Et dans 5 ans, le sujet ne sera plus du tout le SOC, mais le sujet, ça sera potentiellement la crypto-quantique, quoi. Le chiffrement post-quantique. Le problème, c'est que le chiffrement post-quantique, les boîtes de R&D, les vraies, elles sont déjà en train de le faire maintenant et de l'implanter, donc elles auront une longueur d'avance. Les écoles ne sont pas conscientes de ça. Ça va se diffuser sur le marché. Dans 5 ans, ça va devenir un besoin. On va commencer à rétro-pédaler pour former des gens rapidement. Entre-temps, il y aura une nouvelle technologie de rupture qui va apparaître. Et c'est là, en fait, justement, je pense qu'il y a un enjeu sur les systèmes même d'éducation. Il va y avoir de gros changements, chamboulements qui traversent d'ailleurs ces systèmes-là depuis des années. Et en attendant, c'est vrai que c'est l'intérêt des plateformes, ce que tu disais, cette élasticité-là, c'est que ça permet d'augmenter sa capacité d'atteindre des ressources au-delà des 4 murs d'une société pour aller trouver des compétences rares, où qu'elles soient, et pouvoir les impliquer sur des opérations. Alors aujourd'hui, qui deviennent critiques, j'ai pas besoin de le rappeler, je pense qu'on en parle depuis le premier podcast que j'ai fait avec toi, mais là encore, on a vu hier, avant-hier, des collectivités, par exemple en France, qui se font attaquer des collectivités, enfin des administrations en Australie qui se font attaquer avec des données qui fuitent. Ce genre de sujet, je pense que ça va être des guerres au quotidien qui ne sont pas prêtes de s'arrêter. Et donc, il y a une vraie urgence à accélérer sur le côté offensif pour que tout le monde, quelque part, se confronte le plus rapidement à l'épreuve du feu et qu'on sorte un peu soit de la naïveté, soit de ce côté où on fait un peu l'autruche pour se dire, non, mais regarde ce que tu as réellement, essaie de le corriger rapidement parce que ça n'est pas est-ce que tu vas être piraté ou pas, c'est quand est-ce que tu vas le découvrir. La vraie question, elle est juste là, en fait. Et dans quelles conditions tu vas le découvrir? Est-ce que tu vas le découvrir dans l'exercice d'un red team ou est-ce que tu vas le découvrir parce que tu vas recevoir un mail de quelqu'un qui te dit, t'as un ransomware chez toi, il faut que tu payes 9 millions de dollars, quoi.
Oui, absolument. Puis de toute façon, tu parlais des collectivités en France. Ici aussi, on a nos nouvelles. D'ailleurs, au moment où on enregistre, c'est tout frais. Une des grandes chaînes nationales de supermarchés, pharmacies, a subi une attaque comme celle-là. au point où là, ils ont été rançongisés. Fait que là, ils sont rendus avec les demandes de rançon. Fait que là, pour eux, c'est terrible parce que pour l'avoir traité des incidents de cette nature-là, ça veut dire qu'ils ont vidé. Les malveillants ont déjà vidé le contenu, sont partis avec la caisse. Et maintenant, ils réclament une deuxième fois pour dépêtrer l'entreprise qui est peut-être pas capable de se dépêtrer de sa situation. Fait qu'on est vraiment dans des situations comme ça de plus en plus vastes, même au niveau des grandes entreprises, même au niveau des petites collectivités, même les hôpitaux. Ils n'ont pas de limite. Puis c'est ça aussi, les gens ne comprennent pas. J'ai vu une annonce de la Croix-Rouge, encore là, au moment de l'enregistrement, qui mentionnait avoir des badges ou des labels sur les sites pour pas que les malveillants attaquent. La réalité, c'est une belle réflexion dans un monde où il n'y a aucun honneur, aucun scrupule. Donc, même si on le fait, il n'y aura pas d'effet réel parce que ces malveillants-là sont tellement détachés et le travail est tellement automatisé que la personne qui fait le service à la clientèle est dans un coin du monde et complètement déconnectée des gens qui développent les attaques, les personnes qui l'exécutent, la personne qui regarde l'argent. Donc, on est dans un contexte où tous des gens qui sont indifférents au malheur des gens qui ont subi entre les deux. Donc,
non, mais je suis tout à fait d'accord avec toi. Et c'est vrai que la réflexion sur la pastille de la Croix-Rouge, ça m'a aussi beaucoup marqué. Moi, je suis plutôt tendance personnellement à dire, j'essaie toujours d'encourager toutes les initiatives. Et si on n'est pas d'accord avec une initiative qui essaie d'améliorer les choses, ben, il n'y a qu'à rajouter une nouvelle initiative. Le cumul des initiatives n'est pas un problème. Mais c'est vrai que sur celle-là, je me dis, OK, d'accord, pourquoi pas. Mais le vrai sujet, c'est qu'il faut quand même sécuriser. Mais je n'ai pas pu m'empêcher de me dire à quel point cette pastille qu'on va rajouter ne va pas justement devenir un indicateur pour dire c'est exactement ça les cibles qu'il faut attaquer, en fait. Parce qu'on sait qu'elles sont tellement sensibles que les États ont été obligés de mettre une pastille parce qu'ils ont une grille de lecture, comme tu dis, de l'honneur, du scrupule, sauf qu'on est face à des gens qui n'ont pas de scrupule. Enfin, je veux dire, que ça soit un hôpital ou un orphelinat ou autre, eux, ils veulent toucher une mise et récupérer un truc. Donc oui, mais ça nous... C'est toute la difficulté aujourd'hui, c'est que... Malin est celui qui saura nous dire comment on va tous sortir de là. La seule chose qu'on peut faire, c'est tous les efforts, toutes les bonnes initiatives sont bonnes à prendre. Rester humble. Et encore une fois, et c'est ma conviction, mais je prêche pour ma paroi, la démultiplication, la diversité des formats, des lieux de d'intégration autres, je pense que ça, on commence à atteindre un niveau où on n'arrive plus à suivre. Donc, il faut revenir un peu à des solutions plus qui ramènent plus d'homogénéité pour pouvoir comparer des choses comparables. Voilà, je veux dire, à un moment, le cerveau humain, s'il doit prendre une décision, il a quelques fonctions qu'il va utiliser, la comparaison, l'appréhension, ce genre de choses. Mais si tu dois comparer 10 formats différents, il y a de grandes chances que tu te trompes, quoi. Alors que si tu compares des choses comparables, tu as peut-être un peu plus de chances de prendre la bonne décision, quoi.
Tout à fait. On a glissé un peu en dehors du sujet principal. Est-ce qu'il y a des éléments donc qu'on n'a pas abordé du sujet principal qui mériterait d'être dit ou on a vraiment passé à travers l'ensemble du concept de VOC que
vous mettez de l'avant? Non, je pense que là on a fait un bon tour de la question. Un des sujets aussi qui était important à mes yeux, en tout cas qui me semble important, c'était un peu la maîtrise des données, et le VOC pour nous a été un accélérateur sur son sujet, c'est que on s'est quand même rendu compte que le modèle SaaS, les modèles SaaS sont très très bien, mais il y a quand même un retour du cloud et du on-prem, quoi. Ou dans certains contextes, il y a quand même des sociétés, des organisations qui disent non, mais moi, il faut que, pour plein de raisons, hein, d'ailleurs, pour des raisons des fois de contraintes, de labels ou de ce genre de choses, qui disent « Non, mais moi, c'est pas possible, il faut que la solution, je puisse m'assurer que les données sont stockées dans un environnement que je maîtrise. » Donc, c'est vrai que nous, on s'était... il y a un petit moment maintenant, on s'était un peu cassé les dents à transformer notre moteur de notre plateforme pour pouvoir le déployer. Mais c'était juste pour partager le constat que le SaaS, c'était... Il y a une grosse phase de on-prem à l'époque. Il y a une grosse phase de SaaS. Et je pense qu'il y a une troisième voie, qui se dessine avec les clouds privés, qui va quand même s'accélérer, dans les années qui viennent et qui va essayer de tirer le meilleur des deux mondes avec des avantages, mais avec des limites aussi. Et nous, aujourd'hui, c'est un des gros sujets. On se rend compte que beaucoup de gens qui poussent les VOC les poussent sur des clouds privés aujourd'hui, quoi.
Très intéressant. On va conclure sur ça. Merci encore de ce partage-là. Merci d'avoir justement ramené dans l'espace public cette réflexion-là. Je pense que ça va faire cheminer bien des gens. On fait avancer le domaine, puis justement éviter que d'amener des gens à la dépression. Justement, tu parlais de ta relation, le fait de la pression qu'on met sur les gens en cyber, elle est énorme. J'en connais beaucoup qui sont en train de craquer. Fait que justement, il faut faire très attention d'amener. Puis c'est justement l'élastique que vous amenez à travers une plateforme et la formalisation de cette idée-là d'un centre de sécurité offensive est très intéressante.
Eh ben, merci beaucoup pour l'échange. Merci aussi à toi pour tout le travail de vulgarisation que tu fais autour de la cyber et au plaisir d'échanger à nouveau sur une autre thématique.
Au plaisir.
Prends soin de toi.